journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. Pour participer, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Aujourd'hui dans le JDA, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne, c'est vous. Faites le sommaire, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Nous parlerons bien sûr de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Russie. On pourra peut-être revenir sur ce match de la France hier, un match qui a apparemment déçu, même si la France a gagné 1-0 contre le Pérou. Vous pourrez vous exprimer, nous attendons surtout vos témoignages sur les inondations à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que chaque année le même scénario se reproduise? Nous attendons également vos commentaires sur le revirement de Donald Trump, ce décret qui interdit la séparation des parents et des enfants dans les centres de rétention, ou encore la fin de la grève dans le secteur judiciaire au Tchad, ou encore, comme vient de le dire Dieneba, c'est 7 minutes contre le CFA, ces artistes ouest-africains qui se mobilisent contre cette monnaie. Qu'en pensez-vous? Je rappelle le numéro pour participer, 00 33 1 55 07 58 00. À cause d'un problème technique, pas de répondeur, donc sans plus tarder, la libre antenne.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Une petite annonce avant la libre antenne, une annonce qui devrait concerner notre auditeur Alassane, mais malheureusement Alassane a raccroché, c'est pas grave. La coordination du Parti Socialiste Sénégalais en France appelle à une manifestation demain, ce samedi 23 juin, pour, je cite, demander la libération des détenus politiques, car Khalifa Sall, Barthélemy Diass et Hassan Diouf. Alors le rendez-vous, c'est donc demain, métro Porte de la Chapelle à partir de 14h. C'est une marche dont l'arrivée se fera au métro Château Rouge. C'est une marche à l'appel de la coordination du Parti Socialiste Sénégalais en France. On va dire une dissidence du Parti Socialiste à Dakar, puisque à Dakar, le PS soutient largement la majorité et Macky Sall. Tout de suite, la libre antenne. Je rappelle le numéro pour intervenir, 01 55 07 58 00. Venez nous parler du sujet de votre choix. On commence avec Richard du côté de Ouagadougou. Richard, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie Hartmann.
Bonjour Richard Zongo.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Richard. À chaque fois, on a une longue conversation avant de prendre l'antenne. Richard, vous vouliez parler de cette Coupe du Monde et des équipes africaines, je crois, non?
Bon, je voudrais parler du Brésil aujourd'hui.
Pardon.
Ouais.
Oui, allez-y, parlez du Brésil, Richard. On vous écoute. Vous avez, alors, le Brésil qui, finalement, s'est fait... comment dire ça, épinglé par la Suisse. Il y a eu un partout, c'est ça.
Je dirais que suite au match nul que le Brésil a eu à réaliser contre la Suisse, un but partout, je pense que c'est l'entraîneur. L'entraîneur aurait dû faire sortir Neymar lorsque on était à la 70e minute. Parce que Neymar, c'est un joueur, il est très technique, très physique. Mais Neymar, c'est un joueur qui retarde le jeu. Vous faites un but partout et il n'y a plus de temps à jouer. Vous voulez gagner le match. Tu prends le ballon et au lieu de libérer le ballon rapidement pour les attaquants, Neymar va prendre le ballon. Il conserve le ballon et il retarde le jeu. Donc, je dirais que c'est Neymar qui a fait que le Brésil n'a pas pu battre et la Suisse lors de la première sortie. Mais je voudrais demander à l'entraîneur de mettre Neymar sur le banc aujourd'hui et de faire jouer Douglas Costa, qui est un joueur très athlétique et qui accélère vite le jeu. Et William et Douglas Costa, sur les côtés, je pense que Firmino et Regis Navas pourront vraiment... Gabriel Regis pourront concrétiser les actions de but.
Alors, je ne suis pas sûr que l'entraîneur du Brésil vous entende, mon cher, mais c'est vrai que le Brésil joue tout à l'heure contre le Costa Rica. À 14h, donc pour vous, il faut Neymar sur le banc, si on a bien compris. Richard?
Oui, il faut Neymar sur le banc. Neymar, c'est un joueur, lorsque vous menez par 2 ou 3-0 et il reste 15 minutes à jouer, vous mettez Neymar maintenant. Neymar
C'est un buteur, en fait, si on comprend bien pour vous, Richard. Mais alors, du coup, mon cher Richard, dois-je comprendre par là que vous supportez cette équipe du Brésil pour la Coupe du Monde?
Oui, je supporte le Brésil depuis 1998. Lorsque je vois le Brésil perdre un match, j'ai très mal à supporter une défaite du Brésil face à une petite équipe, cette équipe de la Suisse que le Brésil, grand Brésil, n'arrive pas à battre. Je voudrais que le Brésil arrive à battre le Costa Rica aujourd'hui pour garder une chance de se qualifier pour le prochain tour. Donc, Neymar, certes, il est très bon, mais il retarde le jeu. C'est un joueur, même quand il était au Barça, Neymar, où les gens ont besoin du ballon pour...
On a bien compris, mon cher Richard, on a bien compris que Neymar ralentissait le jeu, selon vous. Merci beaucoup. D'ailleurs, notre consultant maison expert en football, Salahedine Gakou, nous a montré une petite vidéo tout à l'heure où les Brésiliens se moquaient des Argentins. Qui ont été, je crois, en tout cas ça va être difficile, qui ont perdu leur match hier contre la Croatie, 3-0. Voilà, ils reprenaient sur l'air de la fameuse chanson italienne Bella Ciao, ils disaient Messi Ciao. Voilà pour ces nouvelles de la Coupe du Monde. Alors, pour intervenir, 01 55 07 58 00, on va écouter Jean. Jean, bonjour.
Bonjour, madame Stéphanie Hassmann, et Africa numéro 1. S'il vous plaît.
Bonjour Jean.
Bonjour madame. Nous voulons bien demander à nos compatriotes congolais de sensibiliser en leur disant une chose. Nous demandons à la transition sans Kabila, donc la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila.
Qu'on a reçu dans la semaine.
Oui, mais madame, nous disons qu'il n'y aura pas d'élection tant que ce monsieur qui a tué 12 millions de morts dans notre pays, qui a son armée, qui a... la commission électorale dans ses mains, qui a tout le pouvoir, nous ne voyons pas comment nous pouvons aller aux élections libres, dignes et transparentes. Donc, nous demandons à nos compatriotes congolais de venir demain samedi, le 23 juin 2018, au Media Hotel. C'est situé à toi, boulevard...
Vous aussi, vous appelez une manifestation. Alors, attends, que je note. Vous appelez une manifestation le 23 juin, c'est demain.
Le 23 juin, s'il vous plaît. Omélia Hotel.
Omélia Hotel.
Situé au...
Il y a qui dans l'Omélia Hotel, mon cher Jean?
Donc, c'est nous, la coalition, nous serons Omélia Hotel et nous invitons tous les Congolais qui sont pour la transition sans Kabila de venir nous rejoindre demain.
À quelle heure?
Donc nous sommes là de 14h à 18h.
D'accord.
Et puis c'est pour parler de tout ce qui se passe dans notre pays.
C'est dans une salle de l'Omélia Hotel, on est bien d'accord. C'est pas une manifestation alors, c'est plutôt une...
Non, c'est pas une manifestation.
D'accord, ok.
Il y a un cocktail qui sera servi à la fin de la cérémonie. Madame Hassmann, vous êtes invitée.
C'est très gentil, malheureusement, je crois que je ne pourrai pas demain, mais... Donc, je répète, 23 juin, Omélia Hotel, je pense que les gens pourront trouver l'adresse sur Google.
Omélia
Hotel,
au 3 boulevard de Neuilly, à Courbevoie, c'est dans les 92.
12, tout à fait, dans les Hauts-de-Seine, Courbevoie, 3 boulevard de Neuilly, Omélia Hotel, vous invitez, mon cher Jean, tous les Congolais à venir... pour discuter notamment d'une transition sans le président Joseph Kabila. Merci beaucoup, Jean, de votre participation. J'informe Souleymane que je ne vais pas le prendre parce que le sujet dont il veut parler, on en parle régulièrement. On va écouter Jérôme dans quelques instants et ensuite on écoutera Claudel. Je rappelle le numéro pour intervenir, 01 55 07 58 00. C'est un peu toujours... on passe d'un sujet à l'autre, mais c'est le principe de la libre antenne. Jérôme, je ne sais pas si vous avez un kit-main libre ou une, ou si votre radio est allumée, mais il serait temps de l'arrêter.
Ma radio est allumée, ouais.
Ah bah, éteignez-la, okay. S'il vous plaît, Jérôme.
Ouais,
bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Jérôme.
Oui, ça va le mondial, ça se passe?
Ah bah nous ça va. Vous savez, moi j'ai appris un mot aujourd'hui, je crois que je peux me considérer comme une footix, c'est-à-dire ce sont ces gens qui ne regardent le foot que pendant la Coupe du Monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai.
Ah oui,
mais...
ça c'est vrai.
Voilà, donc on a beaucoup de passion, c'est très très agréable.
Il y a aussi beaucoup de femmes qui deviennent footballistiques.
Ouais, bah oui, oui, oui. T'as vu, hein, dans les plateaux télé maintenant, hein, ouais, il y a beaucoup, toujours une femme qui, pour donner son avis.
Voilà, qui devient très professionnelle dans le foot. Mm. Alors, je viens aujourd'hui vers vous pour parler de l'inondation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus précisément. Mm. Parce que depuis les années 60, depuis Oufouette-Boigny, il y a eu des constructions et la ville d'Abidjan avait été viabilisée. Et à ce jour, tout ce travail se trouve dépassé. Et tous les nouveaux promoteurs qui prennent des chantiers, qui prennent des terrains, ne viabilisent pas avant de construire. Ils prennent un terrain en friche sur plus de 1000 mètres carrés, ils mettent les bâtiments, le terrain n'est pas viabilisé et voilà, ils installent les gens, ce qui fait que les inondations... Quand il pleut, l'eau monte dans les appartements et les gens sont carrément pris à court. Mm. Il y a aussi la commune de Yopougon, la commune de Angré. Pourquoi la commune de Angré a été inondée? Parce qu'il y a Abobo qui se trouve en amont. Mm. Et comme Abobo, c'était rien n'a été fait à Abobo. Tout ce qui a été mis en friche aujourd'hui à Abobo, quand il pleut, l'eau descend sur la commune d'à côté, avec une force inuit.
Est-ce que vous dites finalement, Jérôme, c'est que les terrains n'ont pas été préparés, c'est qu'on parle de construction anarchique.
Voilà, tous les terrains sont anarchiques et vous avez les communes, une grosse commune comme Abobo, où rien n'est fait. Donc l'eau balaie depuis Abobo et va dans la commune qui est à côté, qui s'appelle dans la descente, qui s'appelle Angré, et il y a l'inondation et commence à partir de là. Vous avez le volume d'eau qui descend de 2000 mètres carrés. Alors vous voyez un peu la puissance de l'eau. Alors désolé, mais franchement il faut aller au secours des Ivoiriens.
Allez au secours des Ivoiriens, mais ce que vous dites, Jérôme, et après on va vous couper.
Il n'y a personne qui
ne
fait ce qu'il faut faire. Même à côté de l'hôtel, à côté des grands hôtels, il y a aussi des résidences qui ont été faites.
Oui.
Je veux parler plus précisément de l'hôtel du Golf.
Oui.
À côté de l'hôtel du Golf, vous avez un grand espace qui est aménagé par des résidences et où il n'y a eu aucune viabilisation.
Je suis désolé Jérôme, je suis désolé, la ligne se dégrade, mais on a bien compris, hein, vous parliez des inondations en Côte d'Ivoire finalement qui touchaient aussi tous les quartiers. Alors au-delà de la question de l'aide d'urgence, se pose bien sûr la question de l'urbanisme à long terme. Faut-il revoir la façon dont sont construits, hein, les villes? Faut-il investir davantage dans le drainage des pluies, faire en sorte que les pluies soient davantage évacuées? Et faut-il aussi développer, surtout parce qu'on connaît un peu comment fonctionnent nos villes, hein. Alors c'est pas partout pareil, je fais pas de généralisation, mais dans certaines villes en Afrique de l'Ouest, hein, la voirie, il y a très peu, hein, de ramassage des déchets, d'entretien de la voirie, ou alors voilà, on fait quand il y a des visites officielles. Merci beaucoup à notre cher Jérôme. On va écouter Claudel. Je ne sais pas si Claudel veut parler de ces inondations, mais ça ne m'étonnerait pas. Bonjour Claudel.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour, alors je sais, Claudel, vous vouliez parler de quoi?
Ben justement, comme le compatriote a déjà parlé des inondations, en fait j'avais plus de sujets, mais comme il y a du monde, je vais parler d'un seul sujet. Je voudrais quand même alerter vous les journalistes sur, parce qu'en ce moment, vous insistez beaucoup sur les différentes élections qui arrivent, c'est-à-dire en Afrique. Alors, j'ai comme l'impression qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire avec la CEI, la Commission électorale indépendante, personne n'a parlé. Cette commission qui a été qu'on a jugée illégale par la Cour africaine.
Qu'on soit bien clair, Claudel, c'est la même commission que 2010 avec à sa tête Youssouf Bakayoko.
J'ai comme l'impression qu'on ne fait pas, on n'en parle pas du tout.
Non, mais je vais vous expliquer, Claudel, puisque vous avez interpellé les journalistes qui parlent des élections. On parle des élections au Mali et au Cameroun, parce que les élections au Mali et au Cameroun, c'est au mois de juillet là, et au mois d'octobre. Alors qu'en Côte d'Ivoire, les élections, c'est en 2020. Vous ne vous inquiétez pas, hein. On regarde, hein. On suit.
En 2020,
Ah, vous parlez des sénatoriales, des élections locales, c'est ça, municipales.
C'est la même commission, même commission qui va organiser les élections municipales, régionales, ainsi de suite, d'ici à la fin de l'année. Et alors qu'on l'a trouvé illégal. Moi, j'ai comme l'impression que c'est elle qui fait aujourd'hui.
C'est elle se trouver illégale, c'est en fait c'est l'opposition qui dit que la Cour africaine des droits de l'homme a émis un avis, un jugement, pour expliquer qu'effectivement, il serait peut-être mieux de changer la CEI.
Oui, cette Cour a statué, effectivement, la Côte d'Ivoire était partie prenante, c'est-à-dire que le gouvernement était présent, le gouvernement a interjeté appel, et cet appel a été rejeté, et cette Cour a condamné, a demandé expressément au gouvernement ivoirien de reformuler une CEI équitable. Personne, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2010, enfin pas 2010, mais personne n'en parle.
Encore une fois, Claudel, je suis désolée, c'est pas vrai parce qu'on en a parlé. Moi, j'ai reçu il y a quelques temps, quelques semaines, Pascal Affine-Guessant qui est venu ici. Et ça fait partie, effectivement, des revendications de l'opposition, hein, cette révision de la Cour, de la Commission électorale indépendante.
Bah, vous voyez que depuis quelques jours, hein, cette commission a commencé à faire l'enrôlement, c'est-à-dire que c'est la soubérée, hein, personne ne s'occupe de ce que la Cour africaine décide. Et c'est cela qui remet en cause le problème des lois en Afrique, parce que si nous voulons que nos institutions soient respectées, il est important que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, respectent les décisions qui sont prises par cette Cour. Vous voyez,
c'est très
si
clair.
Je fais le parallèle avec ce qui s'est passé avec Hissène Habré, tout le monde a respecté les décisions qui ont été prises par la Cour qui a jugé Hissène Habré.
Les chambres africaines extraordinaires, ce n'est pas tout à fait les mêmes institutions, hein, Claudel. Ne mettez pas la confusion dans l'esprit des auditeurs, s'il vous plaît.
C'est une commission qui pose des problèmes, des commissions
électorales. D'ailleurs, on signale que dans des pays, mon cher Claudel, et je vous remercie parce que le temps passe vite, on signale que dans des pays, je ne sais pas moi, la France ou ailleurs dans le monde, il n'y a aucune commission électorale. Ni même d'observateurs, ce sont les ministères de l'Intérieur qui organisent les élections. Et pourquoi ce ne serait pas comme ça chez nous, effectivement. Merci beaucoup, Claudel, de votre participation. Et comptez sur nous, hein, pour parler de la Côte d'Ivoire, bien sûr, et de l'organisation des élections. On va écouter Andy et Olivier, toujours sur la Côte d'Ivoire, mais plutôt hein, sur les inondations. Il y a Andy qui était arrivé avant. Bonjour, Andy.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Monsieur.
Est-ce que vous pouvez me permettre de changer de sujet si
Alors, c'est bien. C'est de l'improvisation, on y va. C'est parti Andy, à vous.
Ok. Parlant de la commission de la CEI.
Ah oui.
Parce que le problème est très sérieux. Hein, parce que le monsieur qui est à la tête de la CEI, c'est un membre du bureau politique du PDCI. Il a été imposé par Gbagbo en 2010 et puis Gbagbo a accepté les compromis. Allô?
Oui, bah, je vous écoute, Andy.
Voilà. Le président Gbagbo a accepté le compromis par rapport aux élections apaisées. Le monsieur, il a organisé les élections en 2010. 2015, il a organisé. Il va organiser quoi en 2020? Vraiment, c'est vraiment trop, hein, madame. Il faut que le président soit pris au sérieux. Monsieur Bakayoko, c'est un membre actif du bureau de politique du PDCI-RDA. Il ne peut pas continuer encore à organiser encore l'élection en 2020. Ça, c'est vraiment, c'est
et que fait l'opposition FPI, hein, les deux FPI, pour justement demander ce changement de CEI? On sait que les manifestations sont difficiles, mais bon.
Oui, Madame Stéphanie, le problème, on ne donne pas la voix au FPI proche du camp Gbagbo. Or, le FPI d'Affine-Guessant joue le jeu du pouvoir. Le FPI d'Affine-Guessant, il ne fait pas le poids, hein. Il joue le jeu du pouvoir. Donc, on en laisse parler le FPI d'Affine-Guessant. Le FPI d'Abou Dama Sangaré, d'Aboubacar, Kouna Aboubacar, le porte-parole du FPI de France, du branche, quand on appelle ça, Abou Dama Sangaré, on ne leur donne pas la voix pour parler. C'est ça qui fait l'opposition.
Draman Sangaré, hein.
Voilà. Sur le FPI d'Afin-Guessant, Afin-Guessant n'est pas un opposant. Il fait, c'est un proche du pouvoir. Il joue le jeu du pouvoir. Voilà ce que je voulais dire.
Une CEI contestée, on me dit, on entend bien, hein, effectivement, sont nombreux à demander une révision, hein, de la commission électorale indépendante, mais pour l'heure, hein, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être en cause, hein, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Andy, de votre participation. Alors, Olivier voulait parler des inondations, mais peut-être qu'il nous le dira aussi, peut-être un mot sur cette CEI. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour. Voilà,
allez-y.
Vous m'entendez?
Je vous écoute, oui, allez-y, l'antenne est à vous.
Voilà, donc, Voilà, donc voilà, je ne veux pas changer de sujet. Donc, donc voilà, je...
Ces inondations qu'on fait au moins 20 morts, on rappelle quand même, un terrible bilan en quelques heures. Hein. Et la pluie est encore annoncée aujourd'hui. Hein.
Vous savez, en Afrique, c'est les 20 morts, c'est les morts qu'ils ont répertoriés dans les quartiers UP et tout. Donc il y a eu des morts un peu partout. Donc je suis un peu perplexe sur les chiffres. Hein.
D'accord.
Donc je voulais revenir dessus et dire... ces drames-là, ils arrivent parce que il y a la corruption. Il y a la corruption parce que il y a des zones vraiment qui sont inondables. Même on n'a pas besoin d'experts pour voir qu'ils sont inondables, mais il y a des permis de construire qui sont établis. Vous voyez, avant de construire une maison en Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a la construction. Il faut envoyer des plans et tout. Et c'est tout. Il y a le cadastre. Tout est fait. Mais les gens laissent construire. Nous avons des universités qui ont fait des travaux sur ce phénomène-là et tout. On a un service météo qui n'est pas pris, il ne prévoit jamais rien. On ne sait pas ce qu'ils font. Donc voilà, il y a des universités qui... Nous, on a des universités, des ingénieurs qui travaillent pour d'autres pays. Donc il faut enlever quand même souvent le côté politique partout et engager des... Qu'on appelle
non, mais ce que vous dites, par exemple, cela dit, ce que vous dites, Olivier, c'est les questions de corruption. C'est-à-dire que la corruption fait que là, on n'a pas le droit de construire, et bien pour une certaine somme d'argent, on va délivrer un permis de construire.
Voilà, et en plus... Vous voyez, ici en France, c'est les mêmes tests en Afrique. Avant de donner un ouvrage, il faut que les gens viennent vérifier pour voir si les accès pompiers, avant d'autoriser que cet ouvrage puisse être utilisé par les gens. Donc, ici, ils arrivent, ils savent qu'il y a des problèmes. Les caniveaux sont pas... Vous faites du bitume sans caniveau, il n'y a pas d'égout qui existe en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas, la quantité d'eau, enfin, ils savent bien qu'en Afrique, on fait une maison pour 3 personnes, il y a 10 qui habitent dedans. Donc, la canalisation doit être adaptée. Donc, voilà, je ne sais pas comment ces choses-là...
Et finalement, il y a quelque chose de sorte, beaucoup d'incohérence, vous dites, Olivier, on fait des lois qu'on ne respecte pas, et
voilà.
Quelques billets suffisent à être corrompus.
Vous voyez, le président, il décaisse 2 milliards comme ça dans le vide. On ne sait pas comment ils seront utilisés, comment ils seront partagés, comment les sinistrés seront indemnisés. C'est comme ça, on voit 2 milliards dans le vide et il n'y a pas de suivi. Et c'est grave. Donc voilà, je pense que, mais les gens, on assistera encore à des morts. Parce qu'à San Pedro, il y a eu des inondations. Et pour qu'on parle, le quartier là, les gens sont venus là parce que oui, c'est un quartier du pays. Il n'y a que des riches qui habitent là. Donc, c'est pour ça, ça a pris une ampleur et tout. Et les autres quartiers où il y a des gens, des quartiers précaires, bon, on les laisse à eux-mêmes. Et comme ça, c'est grave. C'est la corruption qui tue l'Afrique. Et c'est la corruption qui tue le développement de l'Afrique. Il faut que les gens arrêtent et de donner vraiment le boulot aux universitaires, aux ingénieurs. Il faut enlever la politique dans tout. Donc, c'est grave.
Malheureusement, la corruption touche toutes les sphères, hein, et pas seulement politique, mon cher Olivier.
Oui, toutes les sphères, mais c'est parce que quand la tête est sale, la queue va être sale, c'est clair.
Le poisson pourri par la tête. Tout à fait.
Ah, voilà. Donc, il y a des gestes simples. Moi, il y a des gestes simples pour faire. Déjà, quand le frère du président s'occupe de qu'on appelle de l'argenterie de la présidence, c'est pas bien. C'est un conflit d'intérêt. C'est le frère du président qui s'occupe de l'intendance de la présidence. C'est pas normal. C'est des choses qu'il faut enlever. C'est des choses... c'est pas joli à voir. C'est de l'argent de l'État. Donc, il y a conflit d'intérêt. C'est simple. Il faut en mettre les gens. Il faut faire des trucs. C'est pas... Il y a des outils aujourd'hui. On met un site internet où les comptes sont là. Tout est vérifié. Dans tous les pays aujourd'hui, tout est vérifié. Aujourd'hui, un citoyen français peut appeler à un ministère, mais je ne comprends pas ceci, cela.
Méfiez-vous, Olivier. Hein, la France n'est pas la championne en matière de lutte contre la corruption. Hein. Moi, j'irais plutôt voir dans les pays nordistes, là, scandinaves.
Non, je n'ai pas dit le contraire. Moi, entre une plaie, je préfère la plaie. Donc, voilà, c'est vrai que la France n'est pas un exemple et tout, mais quand même, il y a le minimum. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Macron ne peut pas se permettre de nommer son cousin ou son frère ou sa mère. Là, la
plupart. Alors, il se fait construire une piscine, et il s'achète de la vaisselle.
Il ne peut pas construire une piscine, mais pas une piscine personnelle.
C'est pour la résidence.
Il va partir demain, la piscine restera. Donc voilà, il aura des enquêtes demain. Mais en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. En Afrique, ça n'existe pas.
C'est ce que, les Rwandais appellent l'accountability, les Rwandais, les anglophones. C'est-à-dire que finalement, voilà, il y a quelque chose qui est absent dans nos nombreux modes de gouvernance sur le continent, voilà. Et principalement en Afrique de l'Ouest, c'est voilà, le fait de rendre des comptes, et de rendre des comptes, tout simplement. Ça manque. Voilà.
Ce qui fait mal, c'est que tous ces présidents-là, c'est des gens qui, c'est des grands universitaires. Mmh. C'est la, pour la plupart, c'est des grands universitaires, c'est des gens qui ont vécu en Europe. Mmh. Ils savent comment ça se passe, mais ils refusent. À chaque fois qu'ils arrivent, ils se tropicalisent, ils commencent à voler, ils commencent à avoir des. C'est pas normal que quelqu'un qui est au pouvoir, qui touche quelqu'un qui travaille dans l'administration, qui a 2000 euros par mois. Un appartement sur Paris dans le 16e.
C'est très clair, effectivement. Olivier, beaucoup d'aberrations, on entend bien. Si vous permettez, je vais vous remercier, Olivier. Et on va finir peut-être sur ce sujet avec Sonia, qui ne nous appelle pas souvent. Donc voilà, on va la prendre. Bonjour, Sonia.
Bonjour, ma sœur.
Bienvenue dans le JDA, Sonia. Vous voulez réagir aussi à ces inondations?
Voilà. J'appelle pour l'inondation en Côte d'Ivoire. Franchement, je ne sais pas si l'Afrique est maudite ou bien quoi. Tous nos présidents, c'est des universitaires qui ont fait l'Europe, qui ont fait l'Amérique. Ils connaissent, ils viennent, ils voient les exemples. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils font du n'importe quoi. Ils promettent et après, ils font ce qu'ils veulent. Il a dit qu'il faisait deux mandats et que le chef d'État qui fait plus de deux mandats, il est dictateur. Et le Valentin ne voulait être encore candidat aux prochaines élections. Vraiment, je ne comprends pas. Ils viennent, ils n'entretiennent pas ce qu'ils trouvent. Au fait, il avait bien fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on appelait Petit Paris. Tout était nickel. Ils n'ont pas éduqué la population même pour jeter même les ordures. Les ordures, là, caniveau devient poubelle.
Mais il y a des, aussi le problème, c'est les municipalités aussi qui ne font pas leur travail, Sonia.
Mais moi, j'ai été là-bas, je les ai vus en train de balayer. Mais ils balayent quoi? Ils balayent sur la route, ils ramassent le sable, ils ramassent les petites choses. Mais les caniveaux, c'est presque inexistant. Les caniveaux sont devenus des poubelles à ciel ouvert. Mmh.
C'est très clair. On aura l'occasion. On va finir, Sonia. On arrive à la fin de cette émission, mais effectivement, merci. Effectivement, merci, Sonia. On aura l'occasion de sûrement en reparler la semaine prochaine. Merci à tous de votre participation. J'ai un petit message pour vous de la part de Fatou, hein, qui se repose actuellement et qu'on embrasse très fort. Elle m'a dit, faut dire aux auditeurs que j'arrive. Oh, voilà, vous le savez, elle arrive d'ici quelques jours. Vous retrouverez notre Fatou national, voire international. On l'embrasse encore très fort. Alors, c'est donc la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 19h20. Merci à tous de votre participation. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du JDA. Je vous propose de parler de lundi du sommet des Africtivistes qui se tient actuellement à Ouagadougou. Peut-on faire la révolution sur Internet? N'hésitez pas à vous inscrire en nous envoyant un mail jda@africa1.com. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres aussi. C'est important à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. Bon week-end.